Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h09, vous écoutez RMC, vous avez raison, les grandes gueules du sport sont en forme depuis ce matin. On est en direct jusqu'à midi avec Jérôme Pinault, David Douillet, Fred Weiss et Simon Dutin. Et on remercie aussi tous ceux qui nous écoutent actuellement en podcast. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Dans 30 minutes, des invités exceptionnels dans les grandes gueules du sport. Ils vont porter le drapeau lors de la cérémonie d'ouverture des JO le 26 juillet et lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques le 28 août. Mélina, Robert Michon et Alexis Anquincan seront nos invités dans ce studio dans un instant. Et puis à 11h, les GG passeront la seconde pour suivre la roue des coureurs du Tour de France avant la grande étape de montagne du jour. Est-ce que Vingegaard a repris cette semaine l'avantage sur Pogacar?
RMC.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant il est plus fort que l'hippopotame?
Mais d'abord, le bras de fer des GG sur la tournée des Bleus en Amérique du Sud qui vire au fiasco. Deux joueurs, Oscar Jégou et Hugo Radou, sont accusés de viol avec violence. Quelques jours plus tôt, une vidéo à caractère raciste de Melvin Jaminet a été diffusée sur les réseaux sociaux et le joueur de Toulon a été exclu du groupe. Est-ce que le rugby est en train de perdre ses valeurs? Dans le coin droit, on retrouve la team Oui, le rugby perd ses valeurs, composée de Jérôme Pinault, David Douillet et Fred Weiss.
Ah, tout de même.
Dans le coin gauche, seul face à la meute, mais c'est le rôle qu'il préfère, la team Non, Simon Dutin. Avant d'en débattre, messieurs, on va accueillir Pierre Thévenet qui suit le rugby pour RMC. Salut Pierre.
Bonjour à tous.
Salut Pierrot.
Oui, parce qu'il y a du nouveau dans cette affaire. Oscar Jégou et Hugo Oradou ont donc été mis en examen hier pour viol aggravé. Les deux rugbymen visés par une plainte pour agression sexuelle par une femme de 39 ans étaient incarcérés depuis une semaine en Argentine et ont été inculpés hier soir à Mendoza.
Oui, à la suite d'une audience à huis clos de plus de 2 heures, le parquet de Mendoza a inculpé les deux internationaux pour viol aggravé, Oscar Jégou et Hugo Oradou, qui ont choisi de ne pas témoigner pendant cette audience. À sa sortie, un de leurs avocats, maître German Nato, restait plutôt serein.
Ils sont évidemment sûrs de leur déclaration, de leur version. Ils sont calmes parce qu'ils se savent innocents dans cette affaire, mais bien sûr inquiets de la situation qu'ils ont dû vivre.
Et désormais, Pierre, place à l'enquête.
Oui, qui va devoir déterminer précisément les faits, qui restent flous. On attend des analyses toxicologiques, des vidéosurveillances, des nouveaux témoignages. Également, les joueurs sont bien sûr toujours présumés innocents. Ils évoquent des relations consenties. Ils nient toute forme de violence sur la victime présumée. Maître Natacha Romano, l'avocate de la plaignante, tient elle un récit glaçant dans lequel elle dénonce des violences sexuelles particulièrement atroces dans cette nuit de samedi à dimanche, après que l'un des joueurs a ramené la femme de 39 ans dans la chambre d'hôtel.
Une fois dans la chambre, elle s'est rendue compte de l'excitation de cet homme. Elle demande à aller aux toilettes pour s'échapper. Immédiatement, il l'attrape pour la maintenir sur le lit. Il la frappe à la tête, l'étouffe. Elle s'évanouit presque. C'est là qu'elle est agressée sexuellement une première fois. Il l'attrape par les cheveux, la traîne à travers la pièce et l'oblige à avoir une relation sexuelle avec un deuxième homme qui est ensuite entré dans la chambre. Il l'abuse également, il la frappe. Le même modus operandi que l'autre homme.
La plaignante, qui avait porté plainte dimanche, a été hospitalisée jeudi à cause d'une décompensation générale du corps. Pour l'instant, Oscar Jégou et Hugo Radou vont rester en détention provisoire et ce, en attendant l'étude de la demande de leur placement en résidence surveillée qui a été déposée par leur avocat. Quoi qu'il en soit, ils ne devraient pas rentrer en France avant leur procès et ils risquent jusqu'à 20 ans de prison.
C'est une affaire, Pierre, qui a forcément impacté le groupe. Hein.
Oui, même si la tournée s'est poursuivie, elle se termine ce soir à 21h à Buenos Aires. On a vu Florian Grill, le président de la Fédération Française de Rugby, particulièrement touché, mais aussi Fabien Galthié parler de traumatisme pour le 15 de France.
Pour le groupe, pour la délégation, ça a été vécu comme un traumatisme, une forme de sidération. Lorsque la police a débarqué à l'hôtel à Buenos Aires, donc ça a été vraiment une journée très difficile, très très dure. Un moment, un instant, une période très difficile pour nous à vivre. Je parlerai de sidération.
La Fédération française de rugby a déjà annoncé une conférence de presse mardi matin à Marcoussis pour évoquer les, je cite, événements extrasportifs de la tournée en Amérique latine.
Merci beaucoup Pierre Thévenet, tu vas rester avec nous hein. Si tu as des précisions, tu n'hésites pas bien sûr. En tout cas, c'est pas la première fois que le rugby est aux prises avec des affaires. Il y a eu l'affaire de la table de chevet de Bastaro en Nouvelle-Zélande en 2009 et plus récemment, il y a des condamnations pour violence conjugale de Mohamed Awas, un procès pour viol aussi qui aura lieu en juin concernant plusieurs anciens joueurs de Grenoble ou encore la condamnation avec sursis de l'international international Bastien Chalureau pour agression. Est-ce que le rugby est en train de perdre ses valeurs? On vous a posé la question sur le compte X des grandes gueules du sport. Et pour l'instant, le sondage donne un large avantage à la team oui, le rugby perd ses valeurs, 71%. La team non, représentée aujourd'hui par Simon Dutin, c'est 29%. Donc Simon, c'est à toi de commencer.
Écoute François, je ne vais pas remettre la rédaction en chef de cette émission, hein, qui est par ailleurs excellente, mais moi j'en ai un peu marre de ces poncifs, ces espèces de lieux communs qu'on trimballe.
C'est pas la rédaction en chef qui parle des valeurs du rugby. Hein.
Mais justement, en fait, non, mais
On
est comptable de ça, justement, de relayer cette espèce de cliché, les valeurs de l'Ovalie. Il y en a marre. Je pense que même les rugbymen eux-mêmes en ont marre. Cette espèce de cliché comme quoi, tu sais, les fameux gentlemen qui jouent un sport de voyous, les mecs qui se mettent sur la tronche sur le terrain et puis qui après se font des câlins au resto ou au bar et partagent la convivialité comme si les footeux ils étaient trop stupides pour pouvoir être copains et partager du bon temps ou respecter l'adversaire. J'en ai un peu ras-le-bol moi de ce schisme entre le sport encore une fois qui serait vraiment vecteur de valeur et puis celui qui serait pratiqué que par des individualistes, parce que je prends le foot parce que c'est souvent au foot qu'il est opposé. Donc, pourquoi je réponds non ? C'est parce que il faudrait, voilà, je réponds non parce que ça partirait du principe que il existait des valeurs au rugby qui n'existent pas ailleurs. Et je pense que le rugby, les rugbyman avancent masqués derrière cette espèce de cliché depuis bien trop longtemps. Voilà, au rugby comme ailleurs, il y a des mecs qui sont capables d'aller se prendre une grosse cuite, de déraper en fin de soirée, de commettre des actes.
Ouais, mais ils étaient mieux encadrés avant.
Mais encadrés.
Il y avait moins de médiatisation, c'est moins professionnel. En fait, avec le professionnalisme, arrivent les problèmes
alors,
en général.
Alors, là où je peux éventuellement te rejoindre, c'est que peut-être que le rugby est à un moment carrefour, dans une zone grise, oui, comme tu dis, depuis l'arrivée du professionnalisme et en termes d'exposition, en termes de renommée, en termes de...
Là t'as des gamins, Simon, t'as des gamins qui arrivent, parce que c'est deux gamins dont on parle, et encore une fois, c'est des présumés innocents, mais on parle de deux gamins qui ont de la notoriété, qui ont de l'argent, ce qui, avant, arrivait moins, en tous les cas, moins rapidement, avec moins d'argent en jeu, etc. C'est ce qui s'est passé. On a essayé de nettoyer la NBA, on a eu ce genre de problème.
Justement, avec j'allais y venir. Est-ce que des jeunes basketteurs français ont moins de valeur que des rugbyman français, que des tennisman français?
Moins de valeur collective, peut-être. Peut-être dans l'image du collectif, peut-être oui. Mais effectivement, dès qu'il y a de l'argent en jeu, dès qu'il y a de la notoriété, dès qu'il y a une visibilité qui est très importante, il y a ce risque de déraper. Forcément. Parce qu'encore une fois, t'as ce syndrome d'impunité. Tu crois que tu peux faire n'importe quoi. Tu crois que tu peux sortir une vidéo en insultant les gens. Tu peux pas faire ça. Sauf que, avant, comme il n'y avait pas de valeur argent, il y avait cette valeur d'homme à homme. C'est-à-dire qu'en gros, l'ancien te disait, hey, petit, si tu recommences ça, tu vas avoir un problème avec moi. Maintenant, il n'y a plus ça. Parce que quand t'es jeune, déjà, tu domines, tu as une autorité et tu as déjà cet argent.
Ouais, mais,
donc,
c'est pas une question de rugby, c'est une question de professionnalement et d'amateurisme.
Alors, c'est la société.
Tant qu'il n'y a pas de pognon en jeu, et qu'il n'y a pas d'exposition, t'es en train de me dire que tu restes un mec à peu près...
Concrètement, la société est comme ça aussi. Mais effectivement, avant, t'avais ce pouvoir sur les jeunes que tu n'as plus dans tous les sports en général. Mais c'est vrai que c'est plus marquant en rugby parce qu'on avait cette illusion, peut-être, de valeurs, de gens qui respectaient les choses, etc. Sauf que maintenant, tu dis, c'est juste un sport professionnel qui gagne plein d'argent.
Je pense que ces valeurs, elles nous ont été survendues. Voilà, c'est ça.
J'ajouterais à ce que dit Fred. Pour moi, ça vient de plus profond que ça. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée du professionnalisme, on va chercher des joueurs de plus en plus jeunes. On va les former.
Pour
bien jouer. Évidemment, je te rejoins, Fred. C'est pour ça que j'ai dit non, j'ai dit oui. Parce que les valeurs du rugby, c'est quoi? C'est des valeurs éducatives aussi. C'est des valeurs à l'école, chez les gamins, respecter les droits de l'homme, respecter chacun, vivre ensemble. On parle de cela. Aujourd'hui, on parle de l'acte terrible qu'on fait deux personnes en fin de soirée, mais c'est pas un dérapage, potentiellement fait, pardon. Mais la vidéo de Jaminet, on la voit, il n'a pas potentiellement dit ça. Donc ça veut dire qu'il y a un problème éducatif. Le problème des valeurs du rugby qu'on appelle les valeurs de l'Ovalie, c'est qu'il y a une scission entre avant, le rugby d'avant avec ces valeurs-là, les anciens, qui n'arrivent plus à transmettre. Mais ça, ça fait belle lurette, et là je te rejoins Simon, ça fait belle lurette que ça n'existe plus, mais il n'y a pas que dans le rugby. Il n'y a plus de transmission. Les jeunes branleurs, ils arrivent, ils sont à peine avec un maillot d'un club pro, ils ne sont peut-être pas encore pro, qui sont déjà ailleurs, qui sont déjà dans leur monde.
Parce qu'ils restent leur plus anciens, ça c'est sociétal.
Parce qu'il n'y a plus de transmission, parce qu'il n'y a plus de transition, parce qu'on en fait d'eux des individualités et que les valeurs ne sont plus transmises. On ne fait appel plus qu'à une chose, la performance, et dans les écoles de foot, et là je suis sûr que David tu vas me rejoindre, dans l'école de foot d'abord, dans les écoles de sport, qu'elles soient de rugby, de vélo, de tennis, il y a école d'abord. À l'école, on apprend le vivre ensemble, on apprend l'éducation. Il n'y a plus d'éducation chez ces jeunes-là. Et donc, on ne peut pas me parler de valeur. Et moi, je peux bien entendre Jean-Marc Lhermet qui s'est rendu à Mendoza, que j'aime beaucoup, les Denis Charvet, etc. Oui, il y avait des valeurs à leur époque. Quand tu nous parles des barbariennes, oui, mais ça, c'est fini. C'est fini, tout ça. L'avenir, elle n'appartient plus à ces gens-là. Et encore, dans le rugby, c'est fini. Et dans les autres sports aussi.
Juste avant de te donner la parole, David, une précision de Pierre Thévenet qui suit le dossier sur, justement, tu parlais des jeunes. C'est une tournée un peu particulière.
C'est une tournée de fin de saison dans l'hémisphère sud, comme on l'a fait tous les ans. Cette année, c'est en Argentine. C'est une tournée où il n'y a pas les cadres de l'équipe de France. Aucun des joueurs du Stade Toulousain, donc pas d'Antoine Dupont, pas de Thomas Ramos, pas de Romain Tamac, pas Grégory Aldrit de La Rochelle, aucun Bordelais non plus. C'est pour ça aussi que Oscar Gigou et Hugo Radou ont eu leur chance. C'est une tournée qui est faite pour ça.
Donc, leur chance, mais justement.
Certains en dehors de la fédération, justement, pointaient la FFR en disant qu'il n'y avait pas eu assez d'encadrement autour de cette tournée. Florian Grill s'est défendu en disant que c'était le même dispositif que d'habitude, avec un chef de délégation, un team manager, et que voilà, l'encadrement en tout cas était le même que d'habitude. Sans doute qu'ils vont le repenser pour les années à venir. Non,
mais encore une fois, ok, c'est des jeunes joueurs, peut-être qu'ils ont encore plein de choses à apprendre. Moi, je sais pas, enfin, il y a quand même.
Simon, c'est des bébés. C'est des bébés. Ils ont 22 ans. C'est des bébés.
On en parle comme s'ils étaient déjà condamnés et qu'ils allaient passer 30 ans en tôle. La présomption d'innocence. On en parle suffisamment. Et on est déjà en train de les condamner comme des criminels, d'une part. Et juste, Jérôme, c'est des mecs qui sont très jeunes, c'est encore des gamins, mais qui, malgré tout, baignent dans un univers d'adultes très encadrés depuis très longtemps.
Je veux dire, 22 ans.
On m'explique que les Toulousains sont, et les Rochelais sont pas là, ou les Bordelais sont pas là, et que du coup c'est des bébés, tu vois, qu'il faut c'est des mecs qui ont l'habitude.
Après
il y a feu des caméras, des médias, des
est-ce que Jérôme et après David, je veux dire, Jérôme rapidement et après
pas,
David,
c'est pas des enfants qu'il faut tenir la main, quoi.
Je suis d'accord avec ça, et en plus de cela là on va je vais parler simplement de sport et des valeurs du sport. C'est une tournée où il n'y a pas les cadres. Donc c'est une tournée où on donne la chance aux jeunes. Quand tu as ta chance d'aller en tournée avec l'équipe de France, qui est le rêve, soi-disant le Graal pour chacun des rugbymen, mais qu'est-ce que tu fais à sortir tous les soirs, à te mettre des cartouches, et saisis ta chance, fais le job jusqu'au bout, tu iras te mettre des cartouches avec tes potes quand tu rentres en France. Là, ils sont dans le cadre d'une équipe de France sportive, d'une délégation. Il y a le mot France sur leur t-shirt, il y a le mot France sur leur jogging. Et les mecs, ils sortent, ils se mettent des
cartouches. C'est pour ça que
c'est juste pas possible.
On peut parler à un moment donné dans cette émission ou pas?
David. Vas-y, David.
Est-ce que c'est sympa, hein, c'est un débat normalement, donc je me mets dans dans le camp de Simon. On peut pas en placer une. Jean-Pierre Rive a dit un truc très juste il y a quelques années qu'on peut étendre au sport et à la société en fait. Il a dit dans le rugby, il y a pas que des cons, mais tous les cons y sont. Voilà. Ça c'est comme ça, c'est un état, c'est global, c'est très juste, c'est très fin, c'est joliment dit, je trouve, mais ça reflète ce qui existe dans le monde du sport et dans le monde de la société. La société aujourd'hui, elle est composée de gens qui sont plus ou moins, certains plus, d'autres beaucoup moins éduqués, mais à qui revient cette responsabilité de l'éducation? Aux encadrants, aux parents. Je veux dire, quand on critique des jeunes qui foutent le feu à des poubelles dans la rue et qu'on dit voilà, écoutez, qu'est-ce qu'il fout à 13 ans dans la rue, et on a eu des malheureusement des malheurs absolus, des gamins qui ont violé une petite fille, des gamins de 13 ans, hein. Bon, voilà, on est dans le même mood en fait sociétal. Or, la responsabilité, l'éducation, ça vient de ceux qui ont ces enfants au départ. Un gamin de 13 ans n'a rien à foutre dans la rue. Comme des joueurs et en déplacement et jeunes, etc. C'est pas des bébés à 21 ans. Tu commences à être adulte. Si tu commences pas à être adulte à 21 ans, tu le seras probablement peu ou pas dans ta vie. Ils ont besoin de cadres. Et ils sont où, ces cadres? On les voit pas. On les voit pleurnicher à la radio, mais il y a personne. Je veux dire, quand t'emmènes des gamins, des jeunes, etc., etc., justement, tu renforces le cadre pour éviter ce genre de choses. Moi, je trouve que et donc le problème sociétal, il est le même dans le sport. Alors c'est hyper médiatisé, dès quelque chose, ça prend une ampleur monstrueuse et c'est normal parce que le sport a valeur d'exemple. Et c'est comme ça, qu'on le veuille ou non. Simon, je suis d'accord avec toi, on en fait trop, c'est trop exagéré, et c'est trop demandé à certaines fédérations, à certains sports, etc., etc. Mais c'est comme ça. Voilà, le sport a valeur d'exemple et puis on le revendique assez souvent. Bon, mais pour ça, il faut l'incarner, et il faut que dans toutes les fédérations sportives, dans le monde du sport en général, ceux qui encadrent, les entraîneurs, les coachs, mais dès le plus jeune âge,
et c'est, oui, mais c'est là où on parle du rugby, pour
éduquer et pallier à des manquements qui proviennent bien souvent des familles qui n'existent plus. Oui.
Mais c'est là où je te rejoins, David, parce que moi, c'est ce que je disais en introduction, quand tu vas chercher des joueurs de plus en plus jeunes, parce que tu les veux dans ton club et qu'ils n'aillent pas ailleurs, ton devoir, c'est de suppléer l'éducation des parents. Tu peux pas aller chercher un joueur qui a 14 ans et oublier de l'éduquer. Alors, il faut finir l'éducation.
Jérôme, avant, c'était les anciens qui les éduquaient.
S'il te plaît.
Ouais, mais Fred, quand ils sont en centre de formation, ils ont des éducateurs. Et les éducateurs aujourd'hui, je suis désolé.
Donc, Jérôme, il
faut qu'ils pensent à autre chose que le sport.
Je mets de la discipline. Non, mais toi, tu écoutes plus que Jérôme. C'est pour ça que je me suis permis. Fred, Franck est avec nous. C'est pour ça que je voulais absolument entendre Franck qui a fait le 32-16 ce matin dans les grandes gueules du sport. Bonjour, Franck.
Bonjour à tous.
Salut, Franck.
Non, moi, je voulais intervenir parce que je crois qu'il y a un moment, il faudrait peut-être qu'on arrête ces troisième mi-temps où c'est quartier libre dans le rugby.
Merci, Franck.
Des fois dans le rugby, c'est le seul sport où il y a des problèmes. Non, mais attends, je te parle pas personnel. Non, mais
Franck,
je peux finir ou pas? Jérôme,
si tu dis une connerie, je te le dis. Non, c'est pas le seul sport.
Mais
il y a déjà eu des scandales.
Mais David, si tu veux dire, on ne pourra pas savoir. Tu as raison.
Oui, vas-y, Franck.
T'as organisé, il y a eu des tournois de judo. Enfin, je veux dire, il y a eu des stages en judo. Vous n'avez jamais eu de problème de ce côté-là? Quand vous étiez en stage, représenter le maillot, vous avez eu des problèmes? Jérôme, s'il a emmené ses équipes à Cal faire des stages ou quoi que ce soit, il n'y a pas eu de problème. L'équipe de France, Clairefontaine ou quoi que ce soit, ils vont là en Allemagne, vous avez le droit de quartier avec les familles, mais sauf. Alors, je dis pas qu'à l'extérieur, en privé, moi, je vais pas comparer les Mohamed Avant ou des autres trucs, les autres joueurs qui ont fait des conneries en privé, mais en représentant la nation et le maillot, en tournée ou en stage, il n'y a pas d'autre exemple, à part au rugby en Nouvelle-Zélande, et là encore en Argentine. Et il ne faut pas comparer le privé, Mohamed Avas, tout ça. C'est du privé, tout ça. Avec le représentant du maillot. Je suis désolé, tu as fait des stages en judo. En judo, j'ai jamais entendu parler de problèmes de beuverie, de conneries comme ça. Jérôme Paraille à Calpe. Je suis désolé, il a envoyé ses coureurs à Calpe. Au GDB, j'ai jamais eu de problème. Au rugby, c'est le troisième mi-temps, c'est la déchirade.
Voilà, exactement. Je reprends la balle au bon, Franck, parce qu'il a raison. Le rugby, c'est le seul sport, tu vois, tu parles aux jeunes. Genre, tu vas dire, les gars, c'est pas bien d'aller picoler et tout. Mais au rugby, aller se prendre une énorme cartouche après un match, c'est super. C'est la convivialité, c'est bien, ça soude les trucs. Se mettre sur la gueule, c'est pas bien. Et on dit aux jeunes qu'il faut pas le faire, mais en rugby, c'est bien parce que il y a du respect et de la virilité et c'est bien un peu de se frotter comme ça. C'est le seul sport où en fait, on transforme des choses qu'on déconseille de faire aux jeunes en valeurs. Les valeurs du rugby, c'est ça. Alors, évidemment, je suis dans la caricature. Mais il faut arrêter de tromper les gens avec ces prétendues valeurs de rugby. Voilà.
Alors merci beaucoup Franck en tout cas d'être passé, et tu reviens quand tu veux dans les grandes gueules du sport. Le résultat du sondage, le rugby est-il en train de perdre ses valeurs? C'est sur le compte X des grandes gueules du sport. Eh bien, c'est une victoire de Simon qui a réussi à prendre un point, 1%, 70% oui, 30% de non, donc Simon Dutin remporte la victoire, même s'il y a une majorité de gens qui pensent comme les autres.
Non. Pour moi, il a perdu un point.
Attends, vous allez voter du coup.
Ah bon? Non, c'était 71-29. Il me semble.
Non, c'est une victoire écrasante.
Voilà. 10h28. c'est vrai, hein, je vous assure. Là, je suis honnête par rapport à ça.
En toute humilité, Simon Dutin, c'est Simon.
10h28, on revient dans un instant dans les grandes gueules du sport et on va accueillir deux porte-drapeaux pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Mélina, Robert Michon, Alexis Anquincan sont les invités des grandes gueules du sport tout de suite dans ce studio. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Vous écoutez les grandes gueules du sport, il est 10h33. Simon Dutin, Jérôme Pinault, David Douillet et Fred Veil ce matin. Dans un instant, ça sera le zapping des GG. On parlera de Wimbledon et d'Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports qui a goûté l'eau de la Seine ce matin. Mais d'abord, on accueille deux invités exceptionnels dans le studio des grandes gueules du sport.
13 jours
avant les Jeux Olympiques sur RMC.
Mélina Robert-Michon est avec nous. Bonjour Mélina.
Bonjour.
Et Alexis Anquincan, bonjour.
Bonjour à tous.
Je l'ai dit à l'instant, bonjour, Amélie Oudéa-Castéra n'était pas seule bonjour. Pour goûter l'eau de la Seine. Alexis, tu y étais aussi ce matin.
Bien sûr que j'étais avec
notre ministre. N'exclus RMC. Alors, elle est bonne l'eau de la Seine?
Et elle était très très sympa cette flotte de la
Seine.
Elle
est potable?
Elle est... Alors, je ne l'ai pas forcément bu, hein, mais honnêtement, elle est à 20 degrés en ce moment, avec un courant qui est encore un petit peu fort.
20 degrés
mais
qui... ouais, c'est 20 pas degrés. Plus frais que ça?
Non, honnêtement 20 degrés. Et j'ai pas mis de combinaison néoprène, donc vraiment c'est nageable comme
j'y
ça.
J'y vais cet après-midi, allez.
Et voilà. Et encore un courant qui est un peu fort, mais ça va s'atténuer dans les prochains jours, donc c'est parfait.
D'accord. Elle nage bien la ministre.
Il l'a bien vendu quand même.
Mais venez, soyez nombreux à venir. Vous allez voir, je vais vous réconcilier avec votre fleuve là.
Elle nage bien la ministre Amélie Oudéa-Castéra.
Elle était très à l'aise ce matin. Et ça fait plaisir de voir cette ministre comme ça dans cette forme là.
Tu sais que Nicolas Pelletier a eu une exclue. On a des bien images sûr. Exclusives de la ministre qui...
Vous pouvez retrouver ça sur rmcsport.fr.
J'ai glissé,
elle
chef.
A glissé un petit peu, oui. En même temps, ça glisse hein, aux abords de la Seine. On va parler de cette grande annonce pour vous. Mélina, tu seras donc porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain, aux côtés de Florent Manaudou, qui était également présent sur RMC ce matin. Et puis toi, Alexis, triathlète, tu seras porte-drapeau le 28 août lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. Tu seras avec Nantenin Keita également. Et ça sera cette fois cette cérémonie d'ouverture sur les Champs-Élysées et place de la Concorde. Mélina, il y a quelqu'un ici qui nous écoute, c'est David Douillet, qui était porte-drapeau en 2000 pour tes premiers Jeux Olympiques.
Je me rappelle, j'avais eu ma petite photo et tout, j'étais très très fière.
tu t'en souviens de ce moment-là et ça t'avait marqué?
Oui, j'étais marquée et j'étais impressionnée de pouvoir faire ma petite photo avec lui, de pouvoir assister à cette cérémonie. C'était un très très grand moment pour moi.
Fred Veil, c'était là aussi, hein, d'ailleurs.
J'étais là, mais moi, il m'avait pas marqué, David.
T'avais pas fait de photo avec lui. Oui, c'était lui.
Okay. Bon. Je sortirai le dossier si tu dois avoir la photo.
David, tu t'en souviens?
Alors, bien sûr que je m'en souviens. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et Mélina a raison. Ça reste un moment. Mélina, tu vas le voir. Hein, c'est aussi puissant qu'une breloque, quoi. C'est impressionnant, quoi.
On a hâte de voir ça.
Ouais, c'est un moment exceptionnel. Alors, dans la configuration, parce que vous allez être sur des bateaux, je sais pas comment vous allez être positionné, parce que il va falloir que tu te battes. Que vous battiez tous les deux pour être le plus en avant possible. Je sais pas s'il faut vous mettre à la proue du navire.
Faut pousser Florent Manaudou dans l'eau, il sait nager.
Sincèrement, il faut montrer que vous êtes là, quoi, parce que sinon vous risquez d'être noyé dans la masse de la délégation et c'est important d'être porte-drapeau parce que tu t'emmènes tout le monde, quoi. On parlait du capitanat de Mbappé tout à l'heure, mais vous êtes les capitaines en réalité de l'équipe de France Olympique, c'est ça la vérité. Mmh. Et au-delà du drapeau et au-delà de ce moment qui reste assez rapide, hein, je te jure que ça va très très vite, beaucoup trop vite, dans tout ce qu'on va te demander comme interview avant et après d'ailleurs, c'est d'emmener cette équipe de France Olympique vers les sommets des podiums, quoi.
C'est comme ça que tu le conçois, ce rôle de porte-drapeau, comme un capitaine d'équipe?
Oui, c'est ça, le but c'est... c'est d'accentuer encore ce côté collectif, parce que c'est ça en fait. On sait que la dynamique qui se crée joue aussi sur les performances, sur tout ça. Et le but, c'est que chacun puisse s'exprimer, c'est de partager tous ensemble un peu l'expérience qu'on peut avoir pour que... Voilà, je crois que c'est 65% d'athlètes qui vont vivre leur première sélection olympique. Donc c'est quand même pas rien, c'est aussi leur dire que voilà, et maintenant qu'ils sont là, ils ont aussi leur chance, ils sont qualifiés, maintenant il faut qu'ils aillent chercher une médaille, ils ont tous on a tous un truc à faire là-bas. Donc voilà, c'est impulser la dynamique et puis faire en sorte que tout le monde s'éclate.
Fred.
Moi j'avais une question pour vous deux, vous avez déjà prévu d'aller voir certaines compétitions, vous avez déjà mis votre planning en place. Alors je sais que c'est depuis peu, mais est-ce que vous avez déjà pensé à aller voir tous les autres justement en tant que capitaine pour les encourager, pour transmettre un petit peu cette énergie, quoi?
Voilà, le but, c'est de faire un maximum de choses. On a parlé un petit peu avec Florent. L'avantage, c'est que lui, il va être plutôt en première semaine avec la natation et moi plutôt milieu fin. Donc, on va essayer de voir. Le but, c'est d'en faire un maximum. On a aussi notre compétition à gérer. Donc, le but, c'est de trouver le bon équilibre pour qu'on puisse apporter...
C'est pas une crainte, ça, justement, que tu as une compétition à gérer et en même temps, tu es capitaine un petit peu l'équipe de France. Est-ce que vous n'avez pas tous les deux aussi, Alexis aussi, hein, vous n'avez pas ce sentiment de se dire... Je vais peut-être me mettre trop dans le rôle de capitaine et je vais peut-être.
Une pression supplémentaire.
Voilà, un plus de pression peut-être, ou peut-être justement s'effacer au profit d'être capitaine.
Non, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre. On va aller chercher justement l'énergie un petit peu de cette équipe pour faire le truc en plus.
Alexis ?
Oui, il y a un petit risque, bien sûr, que ce petit risque de vouloir se mettre vraiment en avant, de se mettre à portée de tous les athlètes, de comprendre leurs problématiques, d'essayer de leur apporter notre expérience, notre motivation. Ça risque de puiser un petit peu d'énergie. Mais à contrario, voilà, je pense qu'on va se nourrir aussi de tout ça et qu'on est une seule et même équipe. Cette équipe de France, on veut vraiment la faire rayonner de la meilleure des façons. Et je pense que ça va nous transcender aussi nous-mêmes parce qu'on va vouloir montrer l'exemple aussi. Et je pense que porte-drapeau, oui, c'est d'être capitaine, mais voilà, je pense qu'on a vraiment les épaules et la stature pour essayer de répondre ça au mieux. Et voilà, on a forcément à diète, quoi.
David avait réussi hein, cette mission d'ailleurs en 2000. Hein. Il avait remporté l'or, en
David
plus d'être porte-drapeau. Hein,
Fred, Fred.
On a de beaux exemples devant nous.
Non, mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est que il y a rien à dire. Quoi. Vous êtes tout à fait légitimes tous les deux, complètement. Et ce rôle vous va parfaitement, et vous allez exceller dans ce rôle. Franchement, ça sent le bon parfum. Voilà. vous êtes emblématique de cette équipe de France et vous allez et Dieu sait si on a besoin de médiatiser surtout en ce moment cette équipe de France, ces Jeux Olympiques pour un peu changer de paradigme. C'est un peu mon coup de gueule de tout à l'heure, mais vraiment on compte sur vous. S'il te plaît, Mélina, ne refusez aucune interview, étalez la confiture le plus possible pour que enfin les athlètes soient mis en l'honneur avant et
David,
après.
Ils sont prêts à tout. Alexis était dans la scène. Ils sont prêts à tout, ça se voit.
Justement, ça c'est... Moi, je rejoins David avec cette image. J'estime que c'est une magnifique représentation de l'olympisme français, vos nominations respectives. Je suis très fier d'être français, que vous allez représenter le sport français, parce que c'est amplement mérité. Je voulais vous dire aussi que vous avez une énorme chance de le faire et kiffez bien, parce que je pense que tous les athlètes français réunis sur cette planète auraient eu envie d'être à votre place. Et je rajouterais à David, ce que dit David, c'est par rapport à l'image de ce matin. Moi, ce que je vois, c'est que Quentin, t'es allé goûter l'eau. La ministre, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est que les Jeux de Paris appartiennent aux sportifs français, au public français passionné de sport. Et ça commence maintenant.
Alors, tu as raison, mais tu vois, quand tu vois une ministre qui se mouille, et je trouve que c'est
vachement bien. Ouais, mais elle est là pour la com, parce que la mère de Marie, elle est
galérée. On s'en fout. Faut dépasser ce stade-là. On fait suffisamment de reproches à Anne Hidalgo qui va pas se mouiller, justement. Lorsqu'il y en a une qui a le courage et qui va, on lui reproche de faire de la com.
Le message au-dessus de ça, c'est où je vous rejoins, c'est messieurs, dames, les athlètes, c'est votre moment.
Et ce qui est important aussi, oui, Alexis Anquincandre, qui est avec nous, qui est un champion avec un palmarès énorme de paratriathlon et qui va donc plonger dans la scène à partir du mois d'août pour les Jeux Paralympiques. Donc Mélina Robert Michon qui est avec nous également, qui va vivre ses 7e Jeux Olympiques. Ce qui est important aussi, je pense, pour vous, c'est d'avoir été élu par vos pairs, c'est-à-dire par les autres athlètes. Ça, c'était une nouveauté. Et c'est vrai que ça renforce aussi ce rôle-là que vous avez en tant que porte-drapeau, je pense.
Oui, bien sûr que ce vote, c'est la première fois que ça se réalise comme ça. On est forcément très fiers parce que voilà, on se sent épaulé par nos athlètes, par toute cette délégation olympique, paralympique. Moi, je suis très fier de ça. Je vais vraiment donner le maximum pour représenter chaque athlète. Voilà, si vraiment ils ont des problématiques, s'ils ont des thématiques particulières, ben je donnerai le maximum.
La porte est ouverte, c'est ça.
Bien sûr. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je peux essayer de réconforter ceux qui seraient un peu en stress.
Ah ouais.
Je peux essayer d'apporter un petit petit peu de voilà de peps justement pour ceux qui auraient besoin de se divertir un petit peu. Voilà, je pense que on est aujourd'hui capable on a prouvé par le passé qu'on était capable de répondre présent sur des grands championnats et ça sera forcément une course très très importante ces jeux. Donc ouais, moi bien sûr que je me mets à
à leur disposition.
À vos expositions, bien sûr.
Alors justement, on entend souvent non mais moi je me bats un petit peu pour que on batte en brèche l'espèce de narratif, les clichés justement, vous êtes les grands frères, les grandes sœurs des athlètes justement concrètement. Voilà, au-delà de ça, depuis votre nomination, vous ne connaissez pas forcément personnellement chacun des athlètes. Est-ce que, je vais poser une question très bête, est-ce que vous avez reçu depuis que vous avez été élu, je sais pas, des messages d'athlètes je sais pas, est-ce qu'il y a un groupe WhatsApp qui a été créé, je sais pas, est-ce que les athlètes reçoivent eux votre numéro de téléphone, votre mail, j'en sais rien pour bon voilà, vous pouvez leur demander des conseils, voilà comment ça va se passer, parce que ce rôle justement d'accompagnement, ce rôle d'encadrement, en pratique, comment, une fois que vous êtes élu, il commence place, et même. Comment il se met en place?
Déjà, Mélina a eu la très bonne idée ce matin, nous, en tant que porte-drapeau, de faire un groupe WhatsApp pour qu'on puisse communiquer entre nous. Bien sûr.
Okay. Enfin, après, absolument qu'on ait le numéro, nous, les journalistes. Hein. Je pense qu'il va se passer plein de trucs.
Non, il va y avoir des dossiers, toi.
Justement.
Mais après, bien sûr que les réseaux sociaux aussi, aujourd'hui, aident énormément à la communication. Donc, bien sûr qu'on ne connaît pas tous les athlètes olympiques, paralympiques, ça serait un mensonge de le dire. Mais voilà, encore une fois, moi, ce message, c'est pour les rassurer, qu'ils aient pas peur de nous contacter s'ils ont des besoins particuliers. Voilà, on va essayer d'y répondre un maximum. Voilà, c'est, je pense, une grande fierté pour nous. Et ce qui est important pour nous dans le quatuor de porte-drapeau, c'est vraiment d'être une seule et même équipe de France unifiée, olympique, paralympique. Donc voilà, on va voir comment on peut essayer de réfléchir aux choses.
Justement, c'est quand une seule cérémonie?
Alors une seule cérémonie, c'est pas pour demain, je pense. Mais encore une fois, je suis pas sûr que le débat il soit forcément de savoir si cette compétition elle doit être réunie en même temps, puisque si c'est pour perdre les téléspectateurs pour plus rien comprendre, je pense que c'est pas mieux non plus. Voilà, peut-être.
Oui,
que...
mais tu pourrais faire une cérémonie et que ce soit.
Oui,
moi je pense que la solution ce serait de faire les Paralympiques avant.
Oui, je pense que la meilleure solution c'est ça. Effectivement. Voilà. Ça serait.
Exactement.
Si on réfléchit.
Parce que t'attires tout le monde, tu focalises tout le monde et t'aurais beaucoup plus de monde.
Plutôt que d'avoir les Jeux Paralympiques sur un début septembre où finalement tout le monde est en mode rentrée.
Exactement.
Ça va forcément perdre un peu d'influx. Vous feriez des Jeux Paralympiques mi-juillet, admettons, maintenant, et des Jeux Olympiques mi-août. Et là, en fait, ça lance les débats, ça lance les hostilités. Et voilà, chacun suit ce qu'il a envie de suivre. Mais au moins, les enfants peuvent suivre les Jeux Paralympiques. Là, malheureusement, on risque de perdre un petit peu quand même.
Nous, on suivra ça sur RMC, les Jeux Paralympiques.
Et surtout, tu auras
une radio digitale exprès, oui. Vas-y.
Surtout, tu aurais tous les journalistes du monde entier qui suivent les JO et qui suivent pas forcément les Paralympiques, qui seraient là et qui feraient leur boulot déjà sur les Paralympiques et qui seraient concernés Paralympiques beaucoup plus que parce que ça, t'as un paquet de journalistes qui vont partir après les JO et donc ça aurait une puissance beaucoup plus importante.
Alors on va les laisser tranquilles un petit peu parce que là c'est vrai que depuis que vous avez été nommé vous faites la tournée des médias voilà, c'est bien normal. On va vous laisser préparer aussi les Jeux Olympiques pour toi, Mélina. Tu vises une médaille?
Bah oui, forcément.
Évidemment.
C'est de montrer l'exemple. Ça va pas être simple, donc du coup, voilà, j'ai encore un peu de boulot et je vais faire ça bien. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment une dynamique en plus. Et en tout cas, moi, je suis vraiment très, très fière de porter le drapeau pour cette équipe et je suis sûre qu'on va faire de très, très beaux résultats. On a la chance unique de pouvoir représenter notre pays. En France, devant le public français, et ça, je pense que ça va être le très très gros plus de la délégation.
Ça va être
vous
magnifique.
Vous entraînez comme David Louis dans ce jardin ou pas?
Apporter le drapeau, bah oui.
Bah pas encore, mais on a eu un défi de Jackson hier qui nous a dit que lui s'était entraîné dans son jardin avec un râteau.
Avec un râteau, ouais, peut-être.
On va
lui envoyer
ça.
Une vidéo de râteau.
Et moi, c'était un balai.
Avec un balai, pourquoi pas. Merci en tout cas, Mélina Robert-Michon, d'être passée dans les studios des Grandes Gueules du Sport. Merci beaucoup, Alexis Anquincan. On va vous suivre très près sur RMC, radio officielle des Jeux Olympiques. Antenne exceptionnelle pour les Jeux de 9h à 1h du matin en direct avec tous nos reporters, évidemment, sur place en direct du Club France. Et puis les radios digitales vont être mises en place pour suivre spécifiquement les performances des Bleus aux Jeux Paralympiques et aux Jeux Olympiques. Donc un grand merci d'être passé et on a envie de vous dire évidemment bonne chance et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup.
Merci
très bientôt. On revient dans un instant, on va continuer de parler de Jeux Olympiques avec donc la ministre des Sports qui a goûté l'eau de la Seine. On en reparle dans un instant dans le zapping. À tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h51 sur RMC, les grandes gueules du sport composées aujourd'hui de Jérôme Pinot, Simon Dutin, Fred Weiss et David Douillet. On parlera à partir de 11h de Pogacar, Vingegaard, le duel au sommet entre autour de France. Mais d'abord, comme tous les jours, c'est le zapping des GG.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
On va commencer, les amis, par ce que je vous disais. Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, qui a testé l'eau de la Seine. C'était ce matin en exclu pour RMC après l'annonce de l'amélioration de la qualité de l'eau par la mairie cette semaine. On s'en fout pas. Jérôme Pinault.
On s'en fout pas.
David Douillet.
On s'en fout pas.
Fred Weiss.
On s'en fout pas.
Simon Dutin.
On s'en fout pas.
La mairie de Paris qui a annoncé que lors de ces 12 derniers jours, la Seine était conforme aux standards pour la baignade 10 ou 11 jours. Et ce matin, sur RMC, en exclusivité, Amélie Oudéa-Castéra est allée se baigner. Après la petite baignade, elle a dit un mot au micro de Nicolas Pelletier, notre reporter. Écoutez.
Je suis hyper émue. Là, la pensée qui m'anime, c'est tout ce travail qui a été mené. On avait dit qu'on serait prêt et on l'est. Et de se dire que grâce au jeu, on l'a fait, c'est hyper puissant. Donc c'est de l'émotion. Je suis assez rassurée parce que on me dit qu'elle est à 20 degrés. Ça va. J'ai déjà nagé en dessous, donc ça devrait aller. Et puis voilà, la perspective, en plus, regardez, mais c'est tellement beau.
Voilà, c'est tellement beau, Simon. Tu t'en fous pas?
Non, je m'en fous pas. J'ai dit, je m'en fous pas. Je voulais simplement dire qu'à mon avis, Madame le maire de Paris doit être
Anne Hidalgo qui a prévu normalement la semaine
doit
prochaine.
Être courroux, doit être colère, doit être fâché.
En analyse politique, Simon Dutin.
Numéro 2. Hein.
Elle s'est faite voler la vedette, hein, parce qu'on l'attendait de pied ferme. Julien Richard doit d'ailleurs y être. A prévu d'y être pour RMC. Bon, voilà. Non, mais bravo, okay. Madame la ministre. Mais encore une fois, on est un peu, c'est de la com. C'est pour.
On a entendu David Diane.
Ouais. Alors oui, c'est de la com, évidemment, dans ce cas de figure, mais on apprend quand même une super nouvelle, que l'eau de la Seine sera praticable, et ça c'est quand même
une super bonne nouvelle.
Ça, c'est
il faut savoir ça. Hein.
Non.
Il y a des relevés quotidiens, ça se trouve.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la formation, en plus de la baignade de la ministre qui nous a rejoué la scène de la 7e compagnie, moi j'adore.
Ah oui, tu veux dire qu'elle n'est pas ressortie avec un troisième bras, donc on est content. Donc on peut se baigner dans la Seine.
Exactement.
D'accord. C'était évidemment attendu hier, la Ligue qui n'a toujours pas tranché pour un diffuseur, un peu plus d'un mois de la reprise de la Ligue 1. On s'en fout pas, David Douillet.
On s'en fout pas.
Jérôme Pinault.
On s'en fout pas.
Simon Dutin.
On s'en fout pas, mais je vais laisser la parole.
On s'en fout pas.
Les clubs de Ligue 1 qui n'ont pas encore tranché entre l'offre d'Azon, 375 millions par an pour 8 matchs sur 9, en espérant un complément d'une autre chaîne, et la création de la chaîne 100% Ligue 1 associée à Warner Bros. Conseil d'administration s'est donné jusqu'à dimanche soir pour prendre une décision. Jérôme, pourquoi tu t'en fous pas?
Non, on s'en fout pas parce que ça m'intéresse, parce que ça intéresse tous les fans de Ligue 1 et que ça traîne et qu'on est très inquiet parce que pendant ce temps-là et que tout cela se décide, et ben les clubs sont en difficulté. Il y a des clubs qui ne peuvent pas recruter, qui sont limités par les moyens, encadrés par la DNCG pour d'autres, et toujours pas de décision, et ça devient de plus en plus inquiétant. D'ailleurs, on voit bien dans les déclarations de chacun, de part et d'autre, des différents présidents, que des clans se manifestent. Et qu'il va y avoir des grosses tensions au sein de la Ligue 1, au sein du bureau et au sein des présidents, parce que c'est une situation qui envenime ce qui était déjà un peu pourri de l'intérieur. Et c'est plutôt une très mauvaise nouvelle que tout cela ne soit pas encore réglé. On est bientôt à la reprise de la Ligue 1, rendez-vous compte. On commence les matchs amicaux et on recule les investissements de certains clubs. Donc, encore une fois, on va creuser le fossé entre les clubs les plus riches et les autres.
Alors, évidemment, j'aurais aimé vous faire réagir tous, mais on aura l'occasion d'en reparler. Vous inquiétez pas dans les grandes gueules du sport au moment où il y aura, évidemment, une annonce officielle. Vous restez avec nous. On vient tout de suite dans les grandes gueules du sport avec le Tour de France au programme. Est-ce que Vingegaard a repris l'avantage cette semaine sur Tadej Pogacar alors que la montagne arrive aujourd'hui? C'est tout de suite. Vous restez sur RMC dans les grandes gueules. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.